Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Jésus a-t-il réellement opéré un miracle à la multiplication des pains? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui fera grandir notre foi aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois vraiment qu'on va voir la manifestation de la puissance de Dieu au cours de cette émission. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Y a-t-il des gens qui suivent Jésus uniquement pour les miracles qu'il peut opérer dans leur vie temporelle? Jésus a-t-il déjà demandé des conseils à ses disciples? Devons-nous chercher à être des serviteurs ou avoir une position dans l'Église? Est-ce que le miracle de la multiplication des pains du temps de Jésus était réellement un miracle? Est-ce que Jésus se révèle davantage à nous pendant les temps d'épreuve? Quand on a peur, est-ce possible que ce soit parce qu'on ne reconnaît pas Jésus au sein de notre épreuve? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous transmettre toutes les réponses que donne la Bible à nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre sa parole. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à bien comprendre ta parole aujourd'hui. Aide-nous à faire abstraction de toute autre chose que ce que tu vas dire à nos cœurs par la bouche de ton serviteur. On t'écoute, Seigneur, on s'attend à toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Dans ce 6e chapitre de l'Évangile selon Jean, nous étudierons en détail le miracle de la multiplication des pains. C'est le seul miracle raconté dans les 4 Évangiles. Dans son Évangile, aussitôt après avoir raconté le miracle, Jean nous transmet le discours de Jésus sur le pain de vie. Jean ne mentionne que quelques miracles, et il les appelle des signes, car les signes ont un but spécifique. La plupart des miracles sont suivis d'un enseignement correspondant. De plus, Jean a dit, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Ce verset est la clé pour comprendre l'Évangile de Jean. Maintenant, Jésus va nourrir une foule de 5000 hommes, et il fera suivre ce miracle du discours dans lequel il s'est présenté comme étant le pain de vie, le pain de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Après cela, après quoi? Après les événements rapportés au 5e chapitre, il a quitté Jérusalem et il a probablement remonté vers la Galilée en passant à l'est du Jourdain. Maintenant, il traverse la mer de Galilée. Et il arrive au nord de celle-ci. Ceci a dû se produire de 6 mois à 1 an après les événements du chapitre 5. Il reste probablement 1 an avant sa crucifixion. J'estime les dates de ces événements d'après les fêtes et les lieux géographiques mentionnés dans l'Évangile. Jean mentionne les villes et les fêtes. Celui qui a quitté sa gloire céleste, la parole qui s'est faite chair, celui qui est venu habiter parmi nous, celui-là a marché sur le bord de la mer de Galilée. Il est allé à Cana, à Nazareth, à Capernaum, à Bethsaïda, à Jérusalem, en Décapole, etc. Maintenant, il vient de traverser la mer de Galilée. Jean précise que la Pâque était proche, la fête des Juifs, verset 4. Il semble qu'il soit donc de retour en Galilée, puisqu'au chapitre 5, il s'était présenté à la porte des brebis. Ceci nous permet de déterminer combien de temps s'est écoulé entre le chapitre 5 est le chapitre que nous allons maintenant étudier. Jean chapitre 6, verset 2. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Suivons-nous Jésus par amour? Les miracles de Jésus attiraient la foule qui le suivait. Cette foule n'avait cependant pas une foi salvatrice, c'est-à-dire une foi qui sauve. Elle ne faisait pas nécessairement confiance en Jésus. Elle suivait Jésus parce qu'elle était fascinée par les miracles et que Jésus pouvait guérir les gens. Mes amis, la mission de Jésus n'était pas de guérir nos corps physiques. Jésus voulait régner dans nos cœurs. C'est pourquoi Jean a dit au début de l'Évangile, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, verset 25. Jésus ne faisait pas confiance à la foule de Jérusalem, et il ne fera pas plus confiance à celle-ci. Cette foule est là pour des miracles. Verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Ceci s'est probablement produit non loin de Capernaum, sur une montagne d'environ 1000 mètres de hauteur. Jésus se rendit sur cette montagne avec ses disciples, et ce sera bientôt la Pâque. Versets 4 et 5. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Philippe était une personne réservée qui ne parlait pas beaucoup. Le Seigneur l'amène à s'exprimer à cette occasion. Au verset 8, André se joindra à la conversation. André et Philippe étaient des personnes très actives, mais pas très bavardes. Enfin, nous ne les voyons pas parler beaucoup dans les évangiles. Cependant, André est celui qui a conduit Simon-Pierre à Jésus. Et les Grecs ont approché Philippe et André lorsqu'ils ont voulu avoir un entretien avec Jésus. Philippe et André se sont consultés pour trouver un moyen de nourrir la foule. Personne n'a jamais conseillé Dieu ou Jésus. Est-ce que le Seigneur Jésus demandait un conseil à Philippe? Jésus n'avait pas besoin de demander de conseil et il ne l'a jamais fait. Alors pourquoi a-t-il demandé à Philippe où trouver du pain? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il éprouvait Philippe. C'était un test. Philippe regarda la foule. 5 000 hommes. Probablement un total de 15 000 personnes, en comptant les femmes et les enfants. Mes amis, c'est une foule importante, spécialement à cette époque où il n'y avait pas de problème de surpopulation. En considérant la foule, l'idée de miracle n'effleura pas l'esprit de Philippe. Il n'y avait qu'une seule solution, un miracle. Verset 7. Philippe lui répondit. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Pourquoi est-ce que Philippe a mentionné la somme de 200 deniers? Probablement, c'est ce qu'il y avait dans la bourse de Jésus et ses disciples. Judas avait dû compter l'argent au moment de leur départ, et c'est la somme qu'il possédait. En voyant la grosseur de la foule, Philippe s'est vite rendu compte que 200 deniers étaient loin d'être suffisants. Le denier était la monnaie romaine. Un denier était l'équivalent d'une journée de salaire pour un travailleur. Les autres évangélistes nous ont dit que les disciples avaient conseillé Jésus. Les disciples voulaient tous faire partie du conseil de direction du ministère de Jésus. Ils ont recommandé « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver les vivres. » Mais Jésus a répondu « Donnez-leur vous-même à manger. Faites-les asseoir par rangée de 50. » Luc, chapitre 9, versets 12 à 15. Les hommes qui s'étaient appointés au conseil de direction se retrouvent avec des fonctions de serviteurs. Ils distribuèrent les pains et les poissons. C'est ce qu'ils auraient toujours dû faire. Trop de personnes veulent des positions dans l'Église. Ils veulent une fonction, un poste au conseil de l'Église. Ils veulent diriger le pasteur. Ils n'ont pas toujours les renseignements nécessaires pour le faire, et ils n'ont pas nécessairement le discernement spirituel pour le faire. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ceux qui devraient rouler leurs manches et servir. Ils devraient témoigner du Seigneur Jésus, distribuer le pain à la foule. Mais en général, ils préfèrent enseigner son métier au pasteur. Tout ce que Philippe peut dire, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter du pain. Puisqu'André est avec Philippe, il place son mot. Versets 8 et 9. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» André avait circulé dans la foule et fait l'inventaire des provisions disponibles. Les inventaires sont importants, j'imagine, mais rarement très utiles. Donc, Philippe et André font leur rapport. Philippe souligne le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, et André rapporte que la seule nourriture disponible, c'est 5 pains et 2 poissons. Ce n'étaient pas nos grosses miches de pain commercial, ce devait être plutôt des petits pains de la grosseur d'un pain hamburger. C'est tout ce qu'André a pu produire. Il semble qu'il n'y avait pas de solution. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Verset 10. Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes, en assumant une moyenne d'une femme et d'un enfant par homme, cela donnait une foule de 15 000 personnes. Maintenant, le Seigneur va nourrir cette foule imposante. C'est tout un exploit intéressant à noter. Si vous avez 200 deniers, 5 pains et 2 poissons pour nourrir 15 000 personnes, vous risquez de manquer de provisions. Si un comité avait étudié la situation, fait le total de l'actif et du passif, il aurait conclu « Il n'y a rien qu'on peut faire ». Quelqu'un a dit qu'un comité est un groupe formé d'individus qui ne peuvent rien faire seuls et qui collectivement décident qu'il n'y a rien à faire. Ou encore, un comité est un groupe de personnes qui gaspillent des heures à rédiger des procès-verbaux. Donc, voici le rapport du comité. Il est impossible, tout à fait impossible, de nourrir cette foule. Sans Jésus, vous n'avez rien. Voyez-vous, il manque un élément dans le portrait. Il manque un miracle. Ils ont besoin de Jésus, je vous le dis. Si vous avez 5 pains, 2 poissons et Jésus, vous avez tout ce qu'il vous faut. Sans lui, vous n'avez rien. Jésus a fait asseoir la foule. Marc nous dit qu'ils s'assirent en petits groupes de 50 et de 100. Donc, nous voyons que Jésus fonctionne avec ordre et méthode. Lorsque le Seigneur Jésus dirige, tout fonctionne à merveille. Versets 11 à 13. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Un professeur dans un collège libéral a cherché à expliquer ce miracle. Selon sa théorie, les disciples auraient caché une réserve de pain et de poisson dans une caverne. Au moment du miracle, Jésus se serait approché de l'entrée de la caverne et les disciples lui auraient refilé les provisions cachées par sa grande robe flottante. Donc, le miracle serait en fait un tour d'illusionniste. Le seul problème avec cette théorie, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner. Croire cela demande autant de foi que croire au miracle. Premièrement, quelle boulangerie aurait pu produire une si grande quantité de pain à l'époque, et où aurait-il pris la quantité de poissons requise pour simuler le miracle? Je doute que l'odeur du poisson aurait pu être masquée. Cette théorie ne fait qu'étaler l'incrédulité du professeur. Elle n'explique rien et ne prouve rien. L'explication évidente est qu'il y a eu un miracle. Lorsque Jésus est présent, cela est suffisant. En fait, il te reste 12 corbeilles de pain. Ceci prouve que la foule fut rassasiée. Les gens ne mangeaient pas toujours à leur faim à cette époque. Il se peut qu'il y en ait eu dans cette foule qui avait mangé à leur faim pour la première fois depuis fort longtemps. Lorsque Jésus fait quelque chose, il le fait bien. Versets 14 et 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La foule reconnaît que Jésus est le prophète, le Messie promis, en voyant ce miracle. Mais elle suit Jésus parce qu'il fait des miracles. Pour s'éloigner de cette foule, je ne serais pas étonné que Jésus ait eu à faire un autre miracle. Jésus s'est éloigné de la foule, car elle voulait le faire roi. Il se retira sur la montagne. Mais Jésus n'était-il pas roi? Oui, il était roi. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il devait monter sur son trône. Cette foule n'aimait pas Jésus ni le Père. Elle cherchait son intérêt politique. Elle désirait être libérée du joug de Rome. Et dans ce dernier miracle, ils cherchaient à rassasier leur faim physique. Versets 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Les autres évangiles nous apprennent que Jésus a fait monter ses disciples dans la barque afin qu'ils se rendent de l'autre côté de la mer de Galilée. Jésus éloigne ses disciples de la foule qui pense à établir Jésus, roi. Le royaume que la foule entrevoit et celui que Dieu a planifié sont deux choses différentes. Jésus se hâte d'éloigner ses disciples de l'influence de la foule. Ensuite, il est allé prier sur la montagne à l'écart de tout le monde. Jésus se révèle davantage à nous pendant les temps d'épreuve. Jésus est venu vers eux pendant la tempête. Il en fait encore autant aujourd'hui. C'est souvent lorsque tout est contre nous et que plus rien ne semble fonctionner que Jésus vient à notre secours. Il se révèle davantage à nous pendant les temps d'épreuve et de douleur. Je ne sais pas pourquoi il attend à minuit lorsque les vagues sont à leur plus fort. Peut-être est-ce parce que c'est seulement alors que nous sommes disposés à écouter ce qu'il veut nous dire. Lorsque les tempêtes de la vie s'acharnent sur notre petite barque, alors nos cœurs sont prêts pour la présence du Seigneur Jésus. Et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. C'est probablement un autre miracle, à moins que Jean ait voulu dire qu'ils ont atteint l'autre rive sans tarder, car la mer était maintenant calme. Ou encore, c'est peut-être le langage de l'amour, avec Jésus dans la barque. Le voyage n'a plus semblé long. La journée fut riche en miracles. Jésus nourrit la foule, marcha sur l'eau, fit marcher Pierre sur l'eau et calma la tempête. Tous ces détails proviennent des trois autres évangiles. C'est en les comparant que nous obtenons tout le portrait de cette journée bien remplie. Jésus vint vers les disciples en marchant sur l'eau. Leur première réaction en fut une de peur et la suivante en fut une d'étonnement. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Marc, chapitre 6, versets 51 et 52. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Matthieu, chapitre 14, verset 33. Les quatre évangiles nous racontent cette journée, et les disciples reconnurent que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus désirait qu'ils comprennent, car le lendemain serait aussi une dure journée à sa façon. En effet, dans la prochaine émission, nous verrons que Jésus devra faire un triage parmi ses disciples. Certains le suivent parce qu'il fait des miracles. Ils suivent Jésus et veulent le faire roi parce que cela serait dans leur intérêt. Tout comme des personnes peuvent avoir intérêt à appuyer un parti politique. Mais Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père pour lui ramener une famille nombreuse. Jésus veut régner dans les cœurs. Donc, le lendemain, lorsque la foule le retrouvera et reviendra à lui, il parlera de la nature spirituelle de son royaume, et plusieurs se retireront et cesseront de le suivre. C'est ainsi qu'il fera le triage, en expliquant et prêchant la vérité. Ceux qui ne sont pas disposés à aimer Dieu ne voudront plus le suivre. Je vous invite à bien lire ce 6e chapitre de l'Évangile selon Jean d'ici là, mes amis. Les miracles vus aujourd'hui nous montrent que Jésus peut répondre à nos besoins, nous guider et nous secourir. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus a dit que si l'on cherchait premièrement son royaume et sa justice, il pourvoirait à tous nos besoins. Il le peut. Voyez comment il a nourri la foule. Il peut nous guider. La foule voulait faire de Jésus un roi selon leur concept de qui devait être le prophète ou le Messie. Elle voulait un roi politique. Leur enthousiasme aurait pu contaminer les disciples de Jésus. Alors il s'est dépêché de les faire monter dans une barque et de les envoyer de l'autre côté de la mer pendant qu'il a renvoyé la foule. Finalement, nous voyons aussi que Jésus est au contrôle des éléments de la nature. Rien ne peut nous arriver qui empêcherait le plan de Dieu de s'accomplir. Chers amis, nous pouvons aller de l'avant dans la volonté de Dieu en toute confiance. Nous vous encourageons à lui faire confiance. Là où vous vous trouvez, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux lui faire confiance. Jésus réclame cette confiance. Il veut régner dans ta vie au niveau du cœur. Ouvre-lui ce cœur et permets-lui d'y investiguer sa vie dans la tienne. Et tu verras les grands changements. Tu verras que lui seul peut calmer ton âme et apporter la paix. Pendant que la foule recherche des miracles, toi, recherche le miracle des miracles. Celui de transformer ta vie. Celui que Dieu veut accomplir au niveau de ton cœur. C'est là le principal besoin de l'homme, d'être régénéré, de recevoir un nouveau cœur, et par le fait même, une nouvelle vie. Voilà le miracle que Jésus-Christ est venu accomplir ici-bas sur cette terre. Peu importe où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus peut accomplir ce miracle. Il n'attend que ta demande. Il n'attend que ta confiance. Crois en lui et tu auras la vie éternelle. Oui, repens-toi de tes péchés et tourne-toi vers Jésus afin qu'il te donne cette vie. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 6, versets 1 à 21.
Oh, merci beaucoup, Régent. Comme c'est réconfortant de réaliser à quel point on peut compter sur Dieu dans tous nos besoins. De savoir qu'il est toujours là pour guider et secourir ceux qui vont à lui par la foi. On a vu aujourd'hui que Jésus est même au contrôle des éléments de la nature. J'ai trouvé ça frappant quand les gens ont mentionné que pendant la tempête sur la mer, les disciples de Jésus, qui étaient dans la barque, ont eu peur quand Jésus est arrivé vers eux en marchant sur l'eau. On a vu qu'ils ont eu peur parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Vous ne trouvez pas que ça nous ressemble un peu? Eh bien, moi, je trouve que ça me ressemble. Parfois, je suis au plein milieu d'une épreuve et je cherche une solution. Comme on dit en bon québécois, ça brasse. Je me sens comme les disciples sur la mer agitée. Et soudain, Dieu m'envoie du secours d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et moi, je ne vois pas que c'est lui qui est en train de me donner une solution, ce qui rend mon épreuve encore plus grande à mes yeux. Puis je panique. Tout comme les disciples sur la mer agitée, je ne reconnais pas Jésus qui me dit « C'est moi, n'aie pas peur ». Comment pensez-vous qu'il me dit « C'est moi, n'aie pas peur » Eh bien, parfois, il me le dit pendant que je lis dans sa parole, dans la Bible. Parfois, il me le dit par une personne. Et la personne ne sait pas nécessairement elle-même pourquoi elle me dit telle ou telle chose. Et parfois, il me le dit par les circonstances qui m'entourent, tout simplement. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » On a besoin de mieux connaître Dieu. Et le meilleur moyen de le connaître, c'est d'ouvrir ce livre merveilleux qu'est la Bible. Après tout, c'est lui qui a inspiré les écrivains de la Bible, du début à la fin. L'apôtre Paul nous confirme ça dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16. Il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu aime se faire connaître à nous. Mon ami, si tu n'as pas encore une relation intime avec Dieu, il veut se faire connaître à toi en ce moment. N'aie pas peur. C'est peut-être ma petite voix humaine que tu entends, mais si ton cœur brûle au-dedans de toi, c'est qu'il entend la voix du Seigneur qui veut s'inviter chez toi pour faire sa demeure chez toi. Après sa résurrection, quand Jésus a rencontré deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont exprimé ensuite que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsqu'il leur parlait en chemin et leur expliquait les Écritures. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut le transformer en faire un cœur nouveau, un cœur qui bat pour lui. Alors laisse Jésus te sauver. Reconnais que tu es un pécheur perdu et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire. Il peut le faire tout de suite. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Imagine-toi éternellement avec le roi des rois.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.